Et votre invité, Sonia Mabrouk, c'est l'économiste essayiste Alain Minc, auteur de Mes présidents aux éditions Grasset.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Alain Minc.
Bonjour.
De l'exercice du pouvoir par temps de crise, nos présidents, et vous le racontez dans ce livre, l'ont tous éprouvé. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Au contraire, succession de crises depuis le début du quinquennat. Et en ce moment, Alain Minc, un ministre de l'Intérieur dépassé. Des policiers qui se sentent humiliés, abandonnés. De quoi est-ce le signe ou le révélateur, selon vous ?
D'une nouvelle tension dans la société française qui n'en manque pas, puisque, au fond, on voit que notre discours universaliste est attaqué comme il ne l'a jamais été. À partir de ce moment-là, il y a une réponse sur le fond. Je crois que le problème de notre passé existe. Les Français ont toujours eu du mal avec leur passé. On l'a eu avec Vichy et on l'a avec l'histoire du colonialisme. Mais ça ne veut pas dire, comme disent les Anglais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et de ce point de vue, je pense que on ne peut pas ne pas tenir les deux bouts de la chaîne. Oui, on a un problème de lecture de notre histoire, mais non pas de réécriture. Il y a une grande différence entre lecture et réécriture. Et on a par ailleurs à se rappeler que les forces de l'ordre sont à l'image de la société française et en particulier avec de nombre d'entre eux, leurs membres qui sont issus, comme on dit, de la diversité. Donc il faut trouver un point d'équilibre et le ministre de l'Intérieur a fait un pas de côté à un moment sensible.
Un moment sensible, un pas de côté qui est considéré comme une erreur par des policiers. Quand vous voyez ces images, vous, Alain Minc, de nos forces de l'ordre jeter les menottes à terre, elles sont dévastatrices pour nous, des policiers qui sont les piliers de notre démocratie aussi.
On ne peut pas à la fois, j'étais peut-être comme vous, de ceux qui applaudissaient les flics au lendemain de Charlie Hebdo. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible aux bavures, il y en a, mais on ne peut pas stigmatiser comme ça, dans la peur des manifestants, des forces de l'ordre dont on était bien content d'avoir la présence, en particulier il y a un an. Et j'espère que dimanche, le président de la République trouvera, lui, les mots d'équilibre.
Les mots d'équilibre pour aussi appréhender cette succession de crises, et après la crise sanitaire, la crise économique, est-ce qu'on mesure à la main suffisamment l'ampleur des dégâts économiques humains à venir?
Avant de les mesurer, il faut se dire que les gouvernements et les banques centrales ont fait un travail extraordinaire. Et c'est pour ça que je n'accepte pas la comparaison avec la crise de 1929. Si en 1930, les gouvernements et les banques centrales avaient fait ce qui a été fait là, peut-être aurait-on évité l'engrenage fatal qui conduit à Hitler. Donc le premier point, c'est que il n'y a pas eu de lacune, et je dis les gouvernements car ça n'est pas la France, c'est le monde international, sur ce qui a été fait. On a su s'endetter, les banques centrales ont jeté leurs règles par-dessus bord, les Allemands ont renoncé à leur doctrine qui relevait de la morale plus que de l'économie. Néanmoins, les dégâts sont là.
Est-ce que le remède n'a pas été, pour reprendre la phrase, alors puisque vous parlez du monde occidental, du chef du monde occidental, le président américain, est-ce que le remède n'a pas été pire que le mal ?
Non, mais ça c'est autre chose. C'est la réflexion sur le confinement. Le confinement, c'est quand même un gigantesque coup de chaud que le monde a eu et qui a fait un choix en réalité que l'on voit maintenant. On a choisi d'éviter des morts visible, et on a décidé de faire des morts invisibles.
C'est
quand on arrête le monde économique, ça veut dire que le produit intérieur baisse de 10%, le commerce international de 15%, les pauvres du tiers-monde n'ont plus d'argent, les budgets de ces pays sont bloqués, donc on aura fait plus de morts, en fait, mais qu'on ne voit pas, que de morts qu'on a évitées.
Il faudra rendre des comptes sur ces choix qui ont mis l'économie sous cloche.
Non, mais c'est pas le problème de rendre des comptes, c'est interroger comment nos sociétés, à un moment donné, basculent. Mais c'est une interrogation qui vise pas seulement les décideurs, qui vise votre monde à vous. Le rôle des chaînes info, par exemple, pendant le confinement, qui faisait que 15 heures sur 24, on ne parlait que de ça, comme si le monde s'était arrêté, ça nous interpelle tous dans l'exercice
certes,
de nos responsabilités.
Mais il y a aussi à la main que les décideurs et le monde médical aussi. Ce sont en grande partie les scientifiques qui se sont soit accaparés ou on leur a donné le pouvoir.
On leur a laissé le pouvoir.
C'est
je pense
grave,
qu'ils
alors.
Se rendent compte qu'ils sont allés trop loin. Bernard-Henri Lévy l'a souligné à juste titre. Mais il y a d'un côté la réécriture, ce qui s'est passé et les leçons en tirées. Puis il y a de l'autre côté la situation actuelle. Alors elle est à la fois très grave, mais par certains côtés elle est relativement plus rassurante que la crise de 2008, paradoxalement. En 2008, le système capitaliste pouvait mourir. Là, la question n'est pas là. Le système capitaliste ne mourra pas. En revanche, c'est comme quelqu'un qui a une entaille et il faut combler cette entaille. Ça va prendre plusieurs années. Mais je pense que la comparaison avec ce qu'on a vécu est très importante. En 2008, tout pouvait s'arrêter définitivement. Là, en réalité, la mondialisation numérique s'est accentuée, la mondialisation financière continue allègrement, avec d'ailleurs des niveaux de bourse ahurissants.
Et ce n'est pas pour vous déplaire, vous qui avez beaucoup parlé de la mondialisation heureuse. L'est-elle encore ?
Non, mais la mondialisation, elle est heureuse pour les centaines de millions d'habitants du tiers-monde qui sont sortis de la pauvreté. Elle a fait beaucoup de bénéficiaires et quelques dégâts, c'est une évidence. Elle va être corrigée à la marge, mais elle va pas être réécrite. Évidemment que nous n'aurons plus 80% de notre paracétamol qui viendra de Chine et d'Inde.
Et fort heureusement, c'est donc l'éloge et le retour de la souveraineté qui vient limiter une mondialisation.
On va récupérer un tout petit peu de souveraineté qu'on a laissé partir. Mais arrêtons de croire qu'on entre dans une nouvelle équation. C'est une plaisanterie.
C'est une plaisanterie ?
De croire qu'on est dans une nouvelle équation ? Oui.
En réalité, c'est le président de la République qui nous a dit « Voici la souveraineté retrouvée, on va limiter les dégâts de la mondialisation. »
On ne
doit pas y croire, alors.
On va à la marge corriger un peu les choses. Mais pour le reste, le monde économique continuera à aller tel qu'il va. Vous savez, notre système est un système qui fabrique de l'efficacité et de l'inégalité. Quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique beaucoup d'efficacité et beaucoup d'inégalité. La question, c'est comment faire pour sauvegarder cette efficacité sans laisser les inégalités aller trop loin.
Quel défi, c'est une question immense. Et sur le plan politique, Alain Minc, d'ailleurs, puisque nous parlions tout à l'heure de la crise sanitaire et économique, il y a une dichotomie entre le président et le Premier ministre. Édouard Philippe récolte les bons points de popularité. Ça veut dire qu'il faut s'en séparer.
Non, mais ça, j'allais vous dire joker. Ce que je note, et je trouve qu'il n'est pas assez dit, c'est que c'est une situation assez injuste pour le président de la République. Chacun sait, et les observateurs proches comme vous, que le président de la République
si proche,
a toujours arbitré dans le sens des décisions libérales. Il n'a pas confiné les vieux, c'est l'Élysée. Il a mis le déconfinement le 11 mai, c'est l'Élysée. Il a fait rouvrir les écoles, c'est l'Élysée. Contre la machine.
Mais vous répondez à ma question.
Contre la machine.
Emmanuel Macron, le libéral, Édouard Philippe, technocrate.
Je vous dis, contre la machine. Quand une politique de bonne décision n'aboutit pas à de bons scores, c'est qu'il y a un problème de message politique. Mais je trouve qu'il faut dire et redire que si il n'avait pas été là pour arrêter les choses telles qu'elles se produisaient, nous aurions été confinés jusqu'à la semaine dernière et nos enfants ne seraient pas allés à l'école. Et les vieux auxquels j'appartiens auraient été mis aux arrêts de rigueur.
Très bien. Alors vous dites Emmanuel Macron le libéral et puis les décisions technocratiques, on l'a compris où elles se prennent. Mais pour tenter de se relancer, le président, il lui faut un électrochoc. D'ailleurs, le mot que vous employez, c'est le disjoncteur. Il faut un disjoncteur. Est-ce qu'il s'appelle Édouard Philippe ?
Vous savez, il n'y a pas beaucoup. Enfin, le monde médiatique a cru, une partie d'entre eux, que le président de la République allait démissionner pour se représenter. Plaisanterie.
On n'en a pas parlé. On a compris que c'était une plaisanterie.
Qu'est-ce qu'il a ? Il a la dissolution. Il ne va pas la faire. On a des expériences passées. Le référendum, il ne va pas le faire, on a l'expérience passée. Grâce à Jacques Chirac, on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une dissolution ou un référendum. Donc, après, il reste le changement de gouvernement, c'est tout. Et ou sinon, disons, des signes politiques lourds. Or, on est à 16 mois d'une présidentielle.
Que peut-on faire encore en 16 mois quand il faut recoudre le tissu social ?
Il faut rapiécer le pays d'abord, c'est l'urgence, et il faut envoyer un ou deux signes qui préfigurent l'avenir, et en particulier un signe sur la décentralisation. Car après ce qu'on a vu du fonctionnement de l'État pendant le confinement, la décentralisation n'est plus un choix idéologique, c'est une nécessité de survie.
Une nécessité impérieuse. Pour conclure, Alain Minc, est-ce qu'en un mot, en un qualificatif, je sais ce n'est pas facile, vous pourriez nous évoquer votre relation avec tous ces présidents, en tous les cas ceux que vous avez bien connus, François Mitterrand. Que diriez-vous ?
Compliqué.
Jacques Chirac.
Inexistante pendant la présidence.
Nicolas Sarkozy.
Intime.
François Hollande.
Respectueuse et lointaine.
Emmanuel Macron.
Proche par l'histoire.
Et eux, que pensent-ils de vous ?
Oh ben ça, vous leur demanderez. Enfin, ils n'ont pas de temps à perdre.
Merci Alain Minc d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Mes présidents chez Grasset.